L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Et c'est l'heure de vous informer sur Radio Mandeléo. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour ces informations interactives. D'abord, les titres de cette édition du journal. À la une de l'actualité dans cette édition du journal, pour parler des doigts au Qatar entre Kinshasa et l'AFC M23, les délégations s'apprêtent à regagner les lieux de négociation alors qu'un projet d'accord de paix a été soumis aux parties pour étude. Les deux parties confirment les retours imminents de leurs délégations à Doha pour la poursuite des négociations. Au sommaire également, la situation humanitaire demeure préoccupante dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, alors que l'humanité célèbre ce 19 août 2025 la journée internationale de l'aide humanitaire. Au Sud Kivu, la situation se détériore du jour au lendemain après l'intensification des affrontements entre les troupes de l'AFC M23 et les Wazalendo alliés au FARDC. Et en sport, l'heure est au bilan dans les clubs qui ont disputé les championnats de la Linafoot la saison passée. L'OC Mungano compte sur la mobilisation de ses fanatiques et sympathisants pour rejoindre la première division la saison prochaine et l'OC Bukavu Dawa sera en assemblée générale ordinaire ce mercredi. Question d'évaluer sa saison passée en première division de la Linafoot. Voilà tout pour les menus de l'actualité Radio Mandeléo en plusieurs lettres. Les journaux en trois titres. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue.
Ce journal vous est présenté par Héritier Boroto.
Un projet d'accord de paix a été partagé avec la RDC et la FC M23 avant une reprise de pourparlers de paix dans quelques jours, a déclaré dimanche 17 août 2025 un responsable qatari proche des négociations selon Jeune Afrique. Ce responsable a précisé que le médiateur qatari s'apprêtait à accueillir un important cycle de négociations à Doha qui devrait débuter dans quelques jours. Hélène Boudjiriri.
Cette annonce intervient pendant que la RDC et les M23 avaient signé une déclaration des principes à Doha le 19 juillet, dans laquelle les deux parties ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu permanent, dans la foulée de la signature d'un accord de paix entre la RDC et les Rwanda à Washington fin juin. Dans le cadre de cet accord, les deux parties avaient convenu d'élaborer un ensemble de mesures, notamment un mécanisme d'échange des prisonniers, avant d'entamer le 8 août des négociations formelles en vue d'un accord de paix global devant être signé au plus tard le 18 août. Après la signature le 19 juillet d'une déclaration des principes à Doha, la RDC et la M23 s'étaient engagés à conclure un accord de paix définitif en moins d'un mois. Prévu au plus tard le 18 août, ce dernier s'est fait toujours attendre. Bien que la date butoir du 18 août n'ait pas été respectée, les deux parties ont répondu positivement aux facilitateurs et ont exprimé leur volonté de poursuivre les négociations, indique Jeune Afrique, qui cite une source officiel à Doha. Des faits, les deux belligérants ont chacun publié un communiqué le 17 août pour réaffirmer leur engagement à œuvrer pour la paix. Les discussions ont pris un nouveau tournant le 14 août après que Doha a transmis un projet d'accord aux deux parties qui ont confirmé avoir reçu les textes. Doha affirme maintenant qu'un nouveau round de négociations débutera prochainement et qu'une délégation congolaise et des membres de l'AFC M23 y participeront. Ces discussions auraient même dû reprendre depuis le 8 août, mais l'AFC M23 a réclamé la mise en œuvre préalable des mesures de confiance, dont la libération de plusieurs centaines de prisonniers. Ces points est toujours la priorité de la délégation de l'AFC M23 qui se rend à Doha, mais Kinshasa refuse de faire cette concession avant qu'un accord soit signé. Si cette libération des prisonniers figure bien dans la proposition qatari, les textes prévoient aussi la mise en place de plusieurs structures destinées à contribuer à l'instauration de la paix. L'une de ces structures, c'est le mécanisme multilatéral de surveillance, censé être co-géré par la RDC et le M23 avec la participation en tant qu'observateur du Qatar et de l'Union africaine. Ces mécanismes devraient permettre de veiller à l'application de l'accord. Par ailleurs, le projet envisage un règlement du conflit en trois phases qui devrait s'étaler sur au moins 7 mois à compter de la signature d'un accord. La première, focalisée sur la situation humanitaire et sécuritaire, prévoit la formation sous l'autorité du ministère de l'Intérieur d'une force spéciale intérimaire. Cette force spéciale intérimaire sera composée à 50% des membres éligibles de l'AFC M23 Lacroix, chargé de collaborer notamment avec des éléments de la police nationale. Son périmètre d'intervention serait circonscrit aux zones dites affectées dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, où elle serait l'unique force autorisée à intervenir. À l'expiration de son mandat de 5 ans irrénouvelable, ces éléments devraient être intégrés au sein de l'armée et de la police. Outre cet ambitieux projet de forces conjointes, les plans qatari envisagent d'encadrer les retours de l'autorité de l'État dans les zones sous contrôle du M23. Dans sa proposition, le Qatar évoque le rétablissement de l'autorité de l'État dans les zones concernées des provinces du Nord et du Sud Kivu. Celui-ci passerait par la nomination par les gouvernements congolais d'autorités intérimaires au niveau local, sans exclure les candidatures potentielles des personnalités suggérées par l'AFC M23. L'intérim de ces autorités de transition prendrait fin avec l'organisation d'élections dans la zone, élections envisagées pour 2027. En parallèle, la proposition d'accord suggère l'organisation d'un dialogue national en 2026. Unanimement réclamé par l'opposition congolaise, ces projets portés depuis plusieurs mois par les églises catholiques et protestantes peinent à décoller. La nomination des nouveaux gouvernements le 8 août, avec l'intégration de certains opposants modérés, a repoussé un peu plus la perspective de ces dialogues, selon plusieurs analystes.
Et dans ce même chapitre, la société civile, les acteurs sociopolitiques et les confessions religieuses devraient être impliqués dans les différents dialogues qui sont menés pour la recherche de la paix à l'est de la RDC. Cet avis est d'Henri Pacifique Mayala, chercheur à Ebouteli, un institut congolais de recherche sur les questions des conflits et gouvernance, après l'annonce de la relance des pourparlers entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 à Doha. Il justifie cela par le fait que, selon lui, la population est dans les oubliettes dans une affaire qui la concerne et dont sa vie dépend. Henri Pacifique Mayala dit ne pas comprendre à quel niveau les peuples congolais seraient susceptibles d'accepter les recommandations ou les conclusions des accords dans lesquels il n'est pas impliqué. Pour lui, il serait important d'élever la confusion dans l'interprétation et la compréhension du contenu de ces différents processus, d'abord par les protagonistes et enfin expliquer au peuple congolais pour lui permettre de savoir à quoi il devrait s'attendre.
Aujourd'hui a été signalé le retour imminent des travaux pouvant conduire à la signature d'un accord de paix. Mais la question qui continue de se poser, c'est à quel niveau la population congolaise, qui du moins n'est nullement représentée ou consultée dans tous ces processus, que ce soit Washington ou Doha, serait susceptible d'accepter les recommandations de ces accords. Et là, c'est beaucoup plus les populations qui sont en déplacement ou les différentes actions de la société civile qui ne peuvent pas être à l'aise dans les milieux sous contrôle des éléments du M23. Cependant, la recommandation que je pourrais fournir, c'est une approche inclusive qui non seulement prend en considération les protagonistes armés à ce conflit, mais qui apporterait une contribution de la société civile, les acteurs sociopolitiques dans leur globalité.
Et plusieurs déplacés qui se sont dirigés sur l'îlot d'Ibinja situé en territoire de Calais suite aux affrontements entre les FARDC et les éléments de l'AFC M23 font actuellement face à une famine généralisée dans cette partie du sud qui vous désalerte. Est parvenue à Radio Maindeleo font état de plusieurs familles de déplacés venues de la ville de Bukavu, de plusieurs groupements du territoire de Calais et Kabare et de la province voisine du Nord Kivu se trouvant dans des familles d'accueil à l'Inkabika.
Frappé par la misère, les familles d'accueil se trouvent actuellement débordées dans la prise en charge de ces déplacés. À ce jour, indiquent des sources sur place, plusieurs familles manquent de la nourriture, des médicaments et d'abri. À ceci s'ajoute également les manques et ou la carence des produits de pêche dans ces milieux où la population vit en majorité de cette activité. Face à ces tableaux sombres, plusieurs cas de malnutrition sont rapportés dans les milieux, surtout chez les enfants. Des déplacés et autres habitants du milieu qui tombent malades éprouvent également d'énormes difficultés à se faire soigner suite au manque d'intrants dans des structures sanitaires. Il faut également souligner l'insuffisance de la literie, une situation qui pousse plusieurs malades à dormir à même le sol, avec tous les risques sur les plans sanitaires. Suite à cette précarité, des cas de choléra sont rapportés dans cette entité, alerte des acteurs sociaux qui ont contacté votre radio. L'un d'eux, Olivier Bahinyuza, lance un appel aux organisations humanitaires pour qu'elles viennent en aide ses compatriotes.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de déplacés venus de partout ailleurs. Comme Ibinja est un milieu qui ne vit principalement que de la pêche, n'a pas aujourd'hui la capacité de faire nourrir tous ces gens. La famine bat record. Il y a un autre problème, c'est le choléra qui sévit dans tous les sous-villages d'Ibinja. Et là, nous avons signalé qu'il y a carence de médicaments dans la prise en charge des malades. Mais aussi, il y a carence des matelas. Voyant qu'il y a débordement aujourd'hui par rapport à la capacité d'accueil, vu que le nombre des malades ne fait que s'augmenter. La population d'Ibinja traverse un calvaire qui ne dit pas son nom. Que nous demandons aux personnes de bonne foi, aux organisations non gouvernementales de venir en aide à cette population qui est aujourd'hui en difficulté.
Notre source plaide également pour l'aménagement des sources d'eau déjà vétustes pour limiter la propagation du choléra dans les milieux. Il plaide également pour une dotation des structures sanitaires de la place en médicaments pour faciliter une bonne prise en charge des malades. Signalons que peu avant l'afflux des déplacés sur l'îlot d'Ibinja, cette entité comptait près de 19 487 habitants, à en croire les défenseurs des droits humains Olivier Bainyuza.
Et dans ce même paquet, alors que l'humanité célèbre chaque année le 19 août la journée internationale de l'aide humanitaire, les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu continuent de traverser une période particulièrement alarmante sur le plan humanitaire. En effet, sans compter des décennies de guerre, c'est depuis plus de 7 mois maintenant que ces deux provinces sont confrontées à une insécurité grandissante, aux lourdes conséquences sur le plan humanitaire, mais dont la réponse reste insuffisante, Myriam Memoufano.
Dans la province du Sud Kivu, par exemple, la situation s'est à nouveau détériorée avec l'avancée des troupes de l'AFC-M23, suivie de l'occupation de plusieurs territoires, puis l'intensification des affrontements entre les militaires du mouvement précité et les combattants se réclamant Wazalendo, alliés aux forces armées de la République démocratique du Congo. Depuis lors, des scènes de violence ont été érigées comme mode de vie dans les entités, particulièrement les territoires de Kalehe, Kabare, Walungu, Uvira, Fizi et Mwenga, obligeant des milliers d'habitants à fuir leur ménage. Dans leur fuite, ces habitants ont été régulièrement confrontés à plusieurs difficultés liées notamment au manque de nourriture, soins de santé, l'eau potable et d'autres besoins sociaux de base, ce qui a obligé certains à retourner dans leur village pendant un moment. Face à la persistance de l'insécurité, la résurgence des affrontements, l'incertitude d'un lendemain sécurisé, la difficulté d'accéder à leurs champs, l'absence de toute aide humanitaire et surtout la sécurité assez élevée, certains d'entre eux ont choisi de retourner une fois de plus dans des zones jugées plus ou moins stables et y rester malgré les défis. Si la crise humanitaire provoquée par la guerre s'accentue du jour au lendemain, celle provoquée par d'autres catastrophes à l'instar des incendies, éboulements et inondations vient à nouveau aggraver l'essor de la population. Dans la province du Sud Kivu, certaines organisations humanitaires tentent de redonner du sourire. C'est notamment dans une partie du Kalehe, une partie du Walungu comme par exemple la Kaziba, Kabanyola et Nyangezi, mais les besoins restent énormes. Au terme d'une marche organisée à Bukavu lundi dernier, les organisations humanitaires œuvrant au Sud Kivu ont plaidé pour l'ouverture d'un couloir humanitaire, enfin de renforcer leur intervention en faveur des populations en souffrance. Ces organisations ont lancé un appel à la cessation des hostilités et invité les uns et les autres à cesser avec la propagation des fausses informations. On écoute à ces sujets Mireille Mboyi, point focal des organisations humanitaires féminines au Sud Kivu et au Maniema.
Nous avons un problème sérieux pour le moment, c'est la désinformation qui nous cause défaut. On ne sait pas accéder aux bénéficiaires. Nous avons l'aide humanitaire qui traîne encore ici dans la ville de Bukavu, qui devait atteindre le vulnérables au niveau de Uvira, mais à cause de la désinformation, cette aide traîne ici dans la ville de Bukavu et il y a des âmes qui sont en train de périr alors qu'ils ont besoin de cette aide. Donc il n'y a pas de couloir humanitaire alors que nous avons nos frères qui sont en situation de vulnérabilité. Il y a des malades, il y a ceux qui dorment à la belle étoile, qui ont besoin peut-être de tentes, il y a ceux qui sont malades. Nous avons les cas de choléra, de monkeypox, qui nécessitent que ces gens-là, les victimes des maladies, il y a les autres qui ont la faim, ils doivent bénéficier de l'aide humanitaire. Mais parce qu'il n'y a pas de couloir humanitaire, nous sommes bloqués, alors que notre mission, c'est d'atteindre ces vulnérables. C'est pour cela que nous lançons un cri d'alarme pour dire que nous sommes prêts, nous les humanitaires, dans la province du Sud Kivu, nous sommes prêts pour apporter notre aide et nous demandons à toute personne de nous aider pour que cette aide arrive à la destination, c'est-à-dire auprès des vulnérables.
Celle-ci rassure par ailleurs que les organisations restent aux côtés des bénéficiaires malgré les contextes. La journée s'est clôturée par un match entre les humanitaires et les étudiants au stade de la Concorde de Kadutu. Cette année, la journée de l'aide humanitaire a été célébrée sous les thèmes « Renforcer la solidarité mondiale et autonomiser les communautés locales ».
Merci Myriam Moufano et mesdames et messieurs, vous suivez Radio Maendeleo à Bukavu et dans les territoires. Dans un court instant, la suite de cette édition du journal.
Suivez Radio Maendeleo en direct partout dans le monde sur www.radiomaendeleo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maendeleo. Radio Maendeleo, c'est vous.
La suite de cette édition du journal, les dernières pluies qui se sont abattues le dimanche 17 et le lundi 18 août 2025 sur une bonne partie du territoire des Calais, causant au passage 11 morts à Bunyakiri, ont également affecté un bon nombre d'agriculteurs ainsi que la route nationale numéro 3. Des sources de la société civile locale et des agriculteurs contactés parlent de plusieurs actifs agricoles détruits, des champs emportés par des érosions et inondations ainsi que des ponts détruits. Pourtant, ils assurent l'interconnexion entre les villages et l'accès aux champs. Pour la société civile locale, plusieurs habitants de la chefferie de Bouloro et ceux de Bouavu, principalement dans les postes d'encadrement administratif de Bunyakiri, s'étaient déjà apprêtés pour semer durant la saison culturelle A qui s'annonce, mais tout cela est aujourd'hui illusoire à la suite des dégâts causés par ces pluies. Cette structure déplore également la perte de plusieurs biens de valeur ainsi que l'impraticabilité de la route nationale numéro 3 aggravée par de nouvelles érosions à plusieurs endroits. Elle plaide pour une assistance en faveur des sinistrés. On écoute à ce sujet Kayumbu Nabwisha Zanoël, militant du mouvement Obapège RDC, noyau de Kalongé, dans les territoires de Calais.
Les agriculteurs ou cultivateurs n'ont pas réussi à atteindre leurs champs. Plusieurs ponts reliant certains sous-villages sont été écroulés. Les ponts reliant les sous-villages Chirulo au sous-village Chigiri à la rivière Kuha dans les villages de Chifunzi. Les ponts reliant les sous-villages Mushingi au sous-village Bulungu à la rivière Luha aussi s'est écroulé. Les champs, les cultures ont été endommagés dans la vallée de la rivière Kuha à Butwashenge et à Misinga, un sous-village de Rambo. La famine, les jours à venir, les travaux champêtres étant paralysés, de sorte qu'on ne saura plus la culture ou la semence adaptée à la saison.
Entre-temps, la perturbation climatique observée ces derniers temps dans la province du Sud Kivu serait en grande partie liée à l'émission massive de gaz à effet de serre dans l'atmosphère au cours des dernières années. Cette situation entraîne un déséquilibre progressif des paramètres météorologiques, notamment la pluviométrie, l'humidité, la température et la pression atmosphérique. C'est ce qu'indique le docteur Jean-Baptiste Moulengezi, enseignant et chercheur à l'ISP Bukavu, dans un entretien accordé à Radio Maendeleo ce mardi 19 août 2025. Selon lui, plusieurs études démontrent une nette augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère à cause principalement des fumées industrielles, l'usage excessif des combustibles fossiles, mais aussi la déforestation croissante dans la région. Jean-Baptiste Moulengezi alerte sur les conséquences visibles de ces dérèglements, notamment les pluies torrentielles enregistrées récemment à travers toute la province qui ont causé d'importants dégâts matériels. Il ajoute que l'absence des stations météorologiques fiables en province aggrave la situation des agriculteurs qui n'ont pas accès à des prévisions adaptées à leur réalité locale, d'où la retenue et la prudence avant toute campagne agricole. Le docteur Jean-Baptiste Moulengezi recommande plutôt aux exploitants de suivre l'évolution du climat et d'attendre des signaux plus stables avant de s'engager dans les semis.
En ce qui concerne la région ici, les analyses faites sur les 40 dernières années, de 1982 à aujourd'hui, montrent que, de manière globale, au niveau des précipitations annuelles ou des pluies annuelles, des totales de pluies annuelles, il y a eu une tendance à la diminution entre 1982 et 2001, à peu près sur 20 ans. Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, la tendance plutôt est à l'augmentation quand on voit les quantités d'eau qui tombent annuellement. Comme c'est quand même sur une durée d'une vingtaine d'années, on peut comprendre qu'il y a une certaine modification. Il y a des modifications qui arrivent, il y a certainement des perturbations. Ces perturbations semblent même se traduire à travers certains événements intenses que nous connaissons ces derniers temps, que ce soit en saison de pluie, que ce soit maintenant en saison sèche. Ce qui concerne les débuts des pluies, les démarrages des précipitations, nous étions habitués à voir les pluies commencer vers les 3 et les 5 septembre. Mais actuellement, la tendance à l'issue de ces analyses, on voit que moyennement c'est vers entre les 15 et les 15 septembre que les pluies vraiment semblent démarrer d'après les différentes données qui ont été analysées sur les 40 ans.
Jean-Baptiste Moulengezi appelle les autorités à investir dans l'installation des stations météorologiques de proximité et à intensifier les campagnes de sensibilisation sur l'adaptation aux perturbations climatiques afin de mieux protéger les moyens de subsistance des communautés rurales. Et la ferme Makina Bukavu procède depuis 2 semaines maintenant à la plantation des arbres dans la ville de Bukavu en collaboration avec la mairie. Cette initiative vise non seulement à sauvegarder l'environnement mais aussi à lutter contre les érosions dans la ville de Bukavu. Ce geste est salué par les doyens de la société civile du Sud qui voit à travers un message de remerciement adressé au directeur général de la ferme Makina Bukavu. Les doyens de la société civile du Sud qui vous salue une action qui, selon elle, est porteuse de sens pour toute la ville, la province et même les pays. Ils évoquent également la situation du parc national de Kahuzi-Biega-PNKB en voie de disparition suite à la déforestation, au braconnage, à l'exploitation illicite et minérée et du bois par des groupes armés et des gens civiques. Des actes considérés comme crimes écocides selon les doyens de la société civile du Sud Kivu, qui qualifie la plantation des arbres par la ferme Makina dans la ville de Bukavu d'un acte de responsabilité sociétale, un attachement à l'équilibre des écosystèmes dans lesquels nous vivons. En réaction à ces messages, la ferme Makina s'est dit touchée par la reconnaissance des doyens de la société civile du Sud Kivu. Pour elle, le reboisement n'est pas seulement un acte symbolique, mais aussi une nécessité pour répondre aux défis écologiques auxquels la ville de Bukavu fait face. Cette société dit être convaincue que seule une action collective et solidaire pourra garantir un avenir durable pour la ville de Bukavu. Pour cela, elle dit compter sur la collaboration des doyens de la société civile du Sud Kivu. Signalons que parmi les signataires de la correspondance des doyens de la société civile du Sud Kivu adressée à la ferme Makina, on note Mathilde Mouindo, Jean-Baptiste Moulengezi, Vital Barolere, Philippe Rouvunangiza ou encore Bougueme Ziga. Et avant la deuxième partie de cette édition du journal, les Congolais sont appelés à connaître et s'approprier en premier lieu l'histoire de leur pays et celle du continent avant de s'intéresser à celle des autres pays ou des autres continents. C'est l'essentiel du message lancé au cours d'un atelier d'échange organisé mardi 19 août 2025 par l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu, ISP Bukavu, à travers son département d'histoire et cela en l'intention des chercheurs, historiens et scientifiques venus de différentes institutions de Bukavu. Selon le professeur Jean-Jacques Usungo du département de l'histoire de l'ISP Bukavu, il est inadmissible que les Congolais et les Africains continuent à apprendre l'histoire des étrangers pendant que ceux-ci ne s'intéressent pas à la leur. Il préconise la réforme du programme d'éducation au RDC afin d'apprendre aux enfants congolais leur propre histoire, ce qui pourrait leur permettre d'aimer leur nation. Le professeur Jean-Jacques Usungo en parle.
Nous voulons permettre aux participants de pouvoir arriver à une histoire africaine décolonisée, à une histoire émancipatrice, une histoire engagée, qui permet le développement de notre pays et également de notre continent. Parce que depuis longtemps, l'histoire a été considérée comme une branche de seconde zone. Mais ici, nous voulons mettre en exergue le fait que enseigner l'histoire, c'est pousser les gens à se prendre en charge et un jour à contribuer efficacement au développement de leur pays. Actuellement, nous sommes en retard par rapport à d'autres pays parce que l'histoire qui est enseignée ailleurs est une histoire nationale ou continentale à la rigueur. Mais chez nous, notre histoire, selon le programme qui est le nôtre, est une histoire extravertie qui nous enseigne de faits qui concernent les dominateurs, c'est-à-dire l'Européen.
De leur côté, les participants remercient les organisateurs pour cette initiative dont la visée principale reste la réforme du secteur éducatif, particulièrement les programmes scolaires, signalant que l'activité a été organisée sous le thème « Révisiter l'histoire de l'Afrique et du Congo, enjeux épistémiologiques et didactiques ». Et merci de nous suivre en direct sur les www.radiomindelo.org. À présent, nous parlons sport.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maïdeleu. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
Et en sport, malgré les difficultés d'ordre financier, l'OC Mungano se félicite de la saison à l'INAFOOT en deuxième division. Pour la prochaine saison, l'OC Mungano compte mobiliser environ 300 000 dollars américains pour se doter d'une équipe capable de revenir en première division de la l'INAFOOT. C'est ce qui ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire de Charles Alilé, tenue le dimanche dernier ici à Bukavu. Selon le secrétaire adjoint de cette équipe, Augustin Wabenga, seul le comité de l'OC Mungano ne peut plus réunir cette somme et ramener l'équipe au devant de la scène. Il dit compter sur la pour également des fanatiques et sympathisants pour permettre à l'OC Mungano d'atteindre ses objectifs la saison prochaine.
Bon, ce que nous pouvons leur dire, qu'ils soient patients. Je sais qu'ils ont soif de suivre Mungano sur le terrain, mais la situation dans laquelle nous traversons, c'est indépendamment de Mungano et des sportifs. Et espérons, après, on va encore souffler et Mungano sera sur le terrain pour le faire plaisir et surtout de les sensibiliser pour qu'ils soient prêts à tout moment à soutenir l'équipe en termes de contribution, parce que comme propriétaire du club, sans eux, Mungano ne paie rien. Donc Mungano compte sur eux, non seulement pour la mobilisation des fonds, mais aussi pour sa survie en général.
Signalons qu'après l'OC Mungano, c'est le tour de l'OC Bukavu de détenir son Assemblée Générale Ordinaire. Ça sera ce mercredi ici à Bukavu, en croire le secrétaire de cette équipe, Bokaboroto, qui nous livre l'information.
La revue de presse. Radio Mindélé au Cap vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
Et avec vous, Hélène Boudjiriri, la mort du professeur Augustin Kanyunyi Basabose, décédé à Bukavu le 18 août, et l'ouverture de l'année scolaire 2025-2026, qui reste hypothétique à Bukavu et dans certains territoires du Sud-Kivu, sont parmi les sujets commentés par la presse à Bukavu.
Débutons avec la mort du professeur Augustin Kanyunyi Basabose, éminent primatologue congolais et fondateur de l'ONG Primate Expertise, décédé le lundi 18 août 2025 à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Cette disparition, qui constitue une lourde perte pour le monde scientifique et les acteurs de la conservation en République démocratique du Congo, écrit la Prinel. Chercheur et conservateur reconnu, le professeur Basabose a consacré plus de 25 ans à l'étude et à la protection des primates, en particulier les gorilles des Graouères dans les parcs nationaux de Kahuzi-Biega et la réserve naturelle des Boulolero sur l'île d'Idjoui. Son travail a contribué de manière décisive à la sauvegarde d'espèces menacées. Au niveau international, il s'était distingué comme explorateur des National Geographic et membre actif de la section des grands singes du groupe des spécialistes des primates de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ses engagements lui avait permis d'apporter une visibilité mondiale à la biodiversité congolaise. Mentor et formateur, il a inspiré plusieurs générations de chercheurs, étudiants et défenseurs de l'environnement, notamment au sein du Centre de recherche en sciences naturelles de l'UIRO. Ses collègues et disciples saluent un leader visionnaire, passionné et profondément engagé, note la Prinel. Sa mort laisse un vide immense dans la communauté scientifique et environnementale, où il restera dans les mémoires comme un défenseur acharné des primates et de la nature, conclut ces médias. Sur un autre sujet, le journal Les Souverains Libres revient sur la grève des administrateurs du territoire et leurs assistants, entamée lundi 18 août 2025. Cela est contenu dans une correspondance adressée au vice-premier ministre de l'Intérieur et dans laquelle ces derniers disent boycotter les travaux suite aux arriérés des salaires. Ils réclament plusieurs années d'arriérés des salaires et autres avantages sociaux, précisent les souverains. Dans une lettre adressée au ministre national de l'Intérieur, les grévistes indiquent que depuis près de 3 ans, ils n'ont plus touché leur salaire ni bénéficié d'autres avantages, dont les frais d'installation. Jambo-RDC.info parle de la rentrée scolaire qui intervient dans 2 semaines au Sud-Kivu. Ces médias en ligne titrent son article « Une rentrée scolaire incertaine à Bukavu ». À moins de 2 semaines de la rentrée scolaire 2025-2026, dans la République démocratique du Congo, on constate à Bukavu un manque d'enthousiasme général, tant chez les commerçants des fournitures scolaires que chez les parents d'élèves. Ce manque d'engouement est principalement lié à la situation sécuritaire et économique en certaines dans la province du Sud Kivu qui freinent les achats des fournitures, ont témoigné certains vendeurs et parents interrogés par Jambo RDC. Alors que la rentrée scolaire est officiellement prévue pour le 1er septembre 2025, la persistance de l'insécurité et l'effondrement du pouvoir d'achat compliquent fortement la reprise des cours, confirment ces médias en ligne. Les quelques vendeurs interrogés par ces derniers évoquent les facteurs liés à l'incertitude qui plane autour de la rentrée scolaire à la date prévue par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté suite à cette situation. Il déplore également la chute vertigineuse du franc congolais face au dollar, entraînant une flambée des prix sur les marchés. Les parents, quant à eux, avancent des difficultés financières, mais aussi ils émettent un doute sur la reprise des cours le 1er septembre prochain. Ils déplorent la perte d'emploi suite à la guerre qui continue à secouer la région, note jamboyardc.info.
Et c'est par cette note que nous mettons un point final à cette session d'information sur Radio Mindeléo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi avec attention. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels des titres. Pour parler des Doha au Qatar entre Kinshasa et l'AFC M23, les délégations s'apprêtent à regagner les lieux de négociation alors qu'un projet d'accord de paix a été soumis aux parties pour étude. Les deux parties confirment les retours imminents de leur délégation à Doha pour la poursuite des négociations. Et la situation humanitaire demeure préoccupante dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu alors que l'humanité célèbre ce 19 août 2025 la journée internationale de l'aide humanitaire. Au Sud Kivu, la situation se détériore du jour au lendemain après l'intensification des affrontements entre les troupes de l'AFC M23 et les Wazalendo alliés au FARDC. Et en sport, l'heure est au bilan dans les clubs qui ont disputé les championnats de la Linafoot la saison passée. L'OC Mungano compte sur la mobilisation de ses fanatiques et sympathisants pour rejoindre la première division la saison prochaine. Et l'OC Bukavu doit se rendre en assemblée générale ordinaire ce mercredi. Question d'évaluer sa saison passée en première division de la Linafoot. La mise en onde était celle de Bartan Boussim à la présentation Héritier Boroto. Excellente suite et bonne humeur chez vous en compagnie des programmes des Radio Mindeléo. Tout à l'heure, cette même édition en version Swahili avec notre confrère Samuel Abamungu. Retrouvez-la donc sur les www.radiomindeleo.org. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout de vos proches. Chaque jour est une vie. Au revoir.